l'église locale. Voilà une série de prédications que je propose ces derniers temps. Ça va être pendant tout un temps. Je ne peux pas encore définir combien de fois, mais nous resterons dans cette thématique-là. Ce matin, je vais juste introduire. Donc, c'est une introduction générale au sujet. Vous avez remarqué que le texte d'introduction, c'était le serviteur de Dieu. Voici comment est mon serviteur. Et nous avons parlé de serviteur en la personne de Jésus-Christ. Nous avons chanté le chant « Tu es venu jusqu'à nous » où on fait allusion à Jésus comme le roi serviteur. J'aimerais juste vous dire que cette notion de serviteur ne s'applique pas que aux hommes et d'abord à la personne même de Jésus. Nous avons aussi constaté que, avec le texte de la Sainte Cène aussi, Jésus s'est fait serviteur. Lui qui était Dieu, il n'est pas resté à la position de Dieu, il n'a pas regardé l'égalité avec Dieu, il s'est fait serviteur. Et en étant serviteur, il a obéi. Il a obéi jusqu'à ce qui a été le plus dur pour lui. Quand on obéit par rapport à un ordre qui nous convient, c'est facile. Mais quand je dois obtempérer pour quelque chose que fondamentalement je ne veux pas, c'est difficile. Mais Jésus a été obéissant jusqu'à la croix et jusqu'à la mort. J'aimerais vous rappeler peut-être quelle est la vision que j'aimerais partager dans l'Église. Juste rapidement, vous savez, mais je rappelle, moi je vois l'Église comme étant un moyen, le moyen de grâce. C'est le moyen que Dieu utilise. C'est juste un moyen. Un moyen que Dieu utilise pour quoi ? Pour faire avancer son royaume. C'est un instrument pour l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui est le plus important, c'est la royauté, c'est-à-dire le règne de Dieu. Depuis le commencement de toute la Bible, vous voyez que cette idée de la royauté apparaît petit à petit. Dans les 12 premiers chapitres du livre de la Genèse, on ne voit pas encore la royauté de Dieu apparaître, mais on le sent déjà. Mais lorsque, au chapitre 12, l'histoire d'Abraham démarre, on voit là un roi qui apparaît, qui s'appelle Melchisédek. Et là commence la signification de la royauté de Dieu. Et tout au long de la Bible, la royauté de Dieu est présente. Vous savez que lorsque Dieu appelle Abraham, il appelle Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Et combien de fois nous avons déjà dit ici que pour avoir une nation, qu'est-ce qu'il faut? Pour qu'on puisse dire qu'il y a une nation, il faut trois choses. Lesquelles? Il faut un peuple. Il faut quoi d'autre? Un royaume? Non, un royaume. Tu parles de quoi, royaume ? Territoire. Voilà, un territoire. Et puis, il faut aussi des lois, c'est-à-dire un État, une structure organisée, des lois, un roi. Il y a trois choses qu'il faut. Et lorsque Dieu appelle Abraham en disant « Je ferai de toi une grande nation », Dieu fait ces trois choses-là. D'abord, Dieu constitue un peuple. C'est toute l'histoire du peuple d'Israël, lorsqu'il se retrouve en Égypte. Et de l'Égypte, on les sort de là. C'est le peuple qui est constitué. L'histoire de la loi, vous savez bien, ils arrivent au désert, Dieu leur donne la loi, et c'est une loi générale. C'est pas seulement qu'une loi politique, ou judiciaire, ou administrative, ou gouvernementale, c'est une loi même au niveau privé, au niveau personnel, au niveau social, culturel. Il instaure les fêtes religieuses, il instaure les traditions, il instaure les rites, Il dit comment le peuple doit se comporter chez lui à la maison, comment, quelles sont les relations entre frères et sœurs, le mariage, la sexualité. Tout est organisé parce que Dieu veut que sa loi guide les vies des gens. Et puis, troisième étape, l'entrée de Canaan, la conquête de Canaan pour avoir le territoire. Pourquoi ? Parce que réellement, il y a une vraie royauté qui est en route. Là, Dieu avait mis ça d'une manière concrète, mais elle existe, la royauté de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu fait avancer son royaume ? La raison pour laquelle Dieu fait avancer son royaume, c'est parce que, à travers son royaume, c'est son règne qui s'installe. Lorsque nous prions notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que nous disons ? Que ton règne vienne. Nous servons Dieu à travers l'Église, mais dans le cadre de son royaume. En 2009, je pense, ou 2010, lors de la convention de nos églises, j'avais été l'orateur pour les jeunes, et je leur avais amené un truc marrant. J'avais pris plusieurs trucs, plusieurs casquettes, et je leur montrais. Je dis, ça c'est une casquette de quoi? Ah, les gens criaient, le pompier. Je dis, ah, le pompier, très bien, j'enlève. Je dis, ça c'est la casquette de quoi? Ah, ça c'est le policier. Et ça c'est quoi? C'est le militaire. J'ai donné tout un tas de casquettes comme ça. Après, je leur ai posé la question, quel est le point commun de toutes ces casquettes? Il y a toujours des gens très 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 rapides en détente, hein. Ils ont tout de suite dit, ces casquettes-là, c'est des casquettes des fonctionnaires. Tous ces gens font partie des services de l'État. Les pompiers, les policiers, les militaires, tous ces gens sont reliés entre eux par le fait qu'ils travaillent pour un État. C'est des fonctionnaires de l'État. Et nous sommes tous, je voulais montrer à travers cette prédication-là que dans le service de Dieu, il y a plusieurs fonctions. On a plusieurs rôles. Parfois, c'est interconnecté, parfois pas du tout. Mais on a plusieurs casquettes. Et toutes ces casquettes-là servent à l'ordre. Imaginez qu'un État sans police, imaginez un État sans armée, imaginez un État sans pompiers, imaginez un État sans, les enseignants, imaginez un État sans les fonctionnaires qui travaillent dans les administrations publiques, etc., etc. Tous ces gens sont interconnectés et sont nécessaires. De même aussi pour le royaume de Dieu. Donc, je voulais dire, l'Église est un moyen de grâce. Et plus encore, l'Église est comme une ambassade. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'Église se trouve sur la terre. Et c'est pas ici. Enfin, je veux dire, c'est pas le lieu de la... C'est pas le siège de Dieu. Ici, c'est les hommes qui vivent ici. Et donc, quelque part, l'Église est comme un peu une ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Elle est là pour manifester la gloire de Dieu, pour montrer aux hommes que Dieu existe, que ça vaut la peine, que c'est possible. Dans les situations diverses qu'ils rencontrent, c'est possible de mettre Dieu dans le coup. Et c'est possible que Dieu agisse. Donc, en tant qu'Église, nous ne devons pas nous regarder comme étant des gens qui fréquentent un truc, un petit club d'amis, des copains, on se connaît. Ah, tiens, ah, chouette, Yvna est là ce matin. Ah, c'est chouette. Oh, mais Christine n'est pas là, ça fait longtemps que je n'ai plus vu Christine. Oui, mais ce n'est pas un club. Nous vivons ici quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus grand que nous. Et cette chose-là, c'est le royaume de Dieu. Nous sommes là pour servir le royaume de Dieu. Et dans ce sens-là, ma façon de voir l'Église, c'est qu'elle est là pour qu'elle serve à l'avancement du royaume de Dieu à travers l'évangélisation, à travers la mission. Parce que l'Église est d'abord une œuvre missionnaire. Elle est là pour faire connaître aux gens de ce monde qui est Dieu. Je prenais l'image des Chinois. Je disais, imaginez l'ambassade chinoise à Bruxelles. Comment est-ce qu'on reconnaît que c'est l'ambassade chinoise? C'est pas difficile. On voit les yeux, On voit le teint, on sait que ça, c'est les Chinois. On voit aussi les plaques de la voiture, on voit aussi le drapeau de la Chine. On sait que ça, c'est l'ambassade de la Chine. Et les Chinois qui sont là, ils sont pas là juste pour faire décor. Ils sont là parce qu'ils sont dans des corps diplomatiques, des missions diplomatiques. Ils sont là pour travailler pour la Chine. Ils font le commerce, ils font des contacts avec le gouvernement, ils font des activités culturelles, ils organisent des trucs à propos de la Chine, pour faire connaître la Chine, etc. Ils sont là pour ça. Et quand ils vont à l'intérieur de la Chine, à l'intérieur de l'ambassade, c'est un territoire chinois. Là, ils peuvent se ressourcer, ils peuvent être formés, ils peuvent apprendre tout ce qu'ils doivent savoir, ils peuvent se ressourcer en tant que Chinois. C'est ça le rôle de l'Église. L'Église a ce double rôle, à la fois d'être une œuvre missionnaire, mais aussi à l'intérieur d'être une œuvre qu'on appelle d'édification, c'est-à-dire qui est là pour former les gens à bien vivre pour le Seigneur, à aimer Dieu, à marcher pour le Seigneur, mais aussi à servir le Seigneur dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. L'Église, c'est aussi comme une espèce de... Vous voyez, quand vous avez une armée, il y a toujours une base, un quartier général de l'armée. Alors, quand les militaires sont blessés au front, on les emmène vite dans le quartier général, dans la base. Là, on va les soigner. Là, on va s'occuper d'eux. L'Église, c'est ça aussi. C'est un lieu où nous devons aussi trouver là des frères et des sœurs, des gens qui nous comprennent, qui nous aiment, qui nous entourent, qui nous aident à guérir de nos blessures, qui nous aident à aimer les autres, à vivre notre vie en étant heureux, à nous épanouir. Ça, c'est aussi le rôle de l'Église. Servir mon Église locale. En fait, en quoi consiste le travail de l'Église ? Je serai bref aujourd'hui, hein. Je ne vais pas aller très très loin, mais juste introduire, vous donner un peu l'envie d'avoir envie de suivre ces enseignements. D'ailleurs, c'est dans l'intérêt de tous ceux qui veulent vraiment servir dans cette Église, c'est dans leur intérêt d'être fidèles à ces enseignements, ou alors de courir après Richard pour demander s'il y a des enregistrements et de les écouter. Voilà, ça c'est. Mais ce serait intéressant. Les questions suivantes seront traversées à travers cette série. En quoi consiste le travail dans l'Église? Quelles sont les tâches que l'on fait dans une Église? Qui peut travailler dans une Église locale? Sous-entendu qu'il ne peut pas travailler dans l'Église locale. Comment est-ce qu'on peut y arriver? Que dit la Bible au sujet du travail dans l'Église? Il y a toute une série de questions pareilles qui vont être traversé. Vous comprenez? C'est une question en rapport avec le travail dans l'Église. Okay. Évidemment, toutes ces questions n'ont du sens que si on a bien compris ce que c'est qu'une Église locale. J'espère que tout le monde est au clair avec la notion de l'Église locale. Levez la main tous ceux qui savent ce que c'est que l'Église locale. Levez la main. Juste comme ça, titre informative. Je vois que. Est-ce que c'est nécessaire encore d'en parler, l'Église locale? On en parlera peut-être dans d'autres sujets. Ok. Être au clair avec la notion de l'Église locale, d'une part, mais c'est pas un problème. Travailler dans l'Église est considéré comme servir l'Église. Le mot « servir » est plus adéquat que le mot « travailler ». Alors, on va juste aborder deux petites choses ce matin. Servir fait penser à des substantifs comme « service » ou bien « serviteur ». Vous êtes d'accord? Mais le mot « servir » a aussi d'autres corollaires comme « asservir ». Vous savez, c'est quoi « servir » ? C'est rendre quelqu'un esclave d'eux. Ok? Ça aussi d'autres connotations dans le passé. Il y avait des mots comme serf. Un serf, c'était un homme libre, mais qui travaillait comme un esclave au Moyen-Âge. Servir, service, serviteur. Servir, c'est donc rendre un service à un autre ou accomplir un service, un travail pour un autre. Et celui qui le fait, celui qui fait ce service-là, est un serviteur. Si c'est, ça peut devenir une position qu'il occupe, la position de serviteur. Dans la Bible, j'ai constaté que le mot, le verbe servir, est repris 493 fois. Le mot servir est repris 193 fois. Et le mot serviteur, 950 fois. Il y a des textes dans la Bible, par exemple l'évangile de Matthieu, où le mot serviteur et le verbe servir est repris presque dans tous les chapitres. Servir mon église locale, c'est servir Dieu dans mon église. Servir Dieu d'un côté, mais aussi servir mes frères et sœurs conformément à la volonté de Dieu. Je ne sers pas les autres comme moi je pense, ou comme eux veulent que je les serve, mais je sers selon la manière dont Dieu me demande de faire. Vous comprenez la différence? C'est comme quand on dit que la femme est soumise à l'homme. Ça ne veut pas dire que la femme fait les quatre volontés de l'homme. D'accord? Ça ne veut pas dire non plus que la femme choisit. La soumission pour moi, c'est là. Le reste n'est pas la soumission, je ne veux pas ça. Non! Je me soumets, la femme se soumet en rapport avec la volonté de Dieu, en rapport avec ce que Dieu lui demande de faire. Donc il lui faut une bonne connaissance de la volonté de Dieu, une bonne connaissance de la Bible pour pouvoir savoir comment vivre sa soumission vis-à-vis de son mari. Je suis au service des autres, pas comme moi j'ai envie, ni comme les autres ont envie, mais comme Dieu le montre, comme Dieu veut que je le fasse. Alors nous verrons plus tard ce que c'est que le mot servir, qu'est-ce que ça signifie, etc. Je vais juste vous laisser avec deux groupes de textes. D'abord le premier texte, le premier groupe de textes, ça fonde la question de savoir, mais quelle est la place là du service dans l'Église? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et le deuxième groupe de textes, ça sera juste pour terminer avec un avertissement. Tite chapitre 2, verset 14. Regardez. Ce texte de Tite commence avec la grâce. Verset 11, on parle de la grâce de Dieu qui a été révélée, qui nous enseigne à vivre une vie sainte, etc., etc., etc. Et puis on arrive à tout ça, ça a été possible parce que Jésus a réalisé son œuvre à la croix. Et verset 14, il s'est donné lui-même pour nous. Quel est le but de Jésus-Christ en mourant? En se donnant lui-même pour nous, c'était quoi? Quel est le but? Un, nous racheter de toute iniquité. Ça, c'est un. Deux, se faire un peuple qui lui appartient, sa propriété. Et comment est ce peuple? Quelle est sa destinée? Pourquoi? À quoi il sert ce peuple? Il est purifié, c'est-à-dire mis à part, préparé, lavé, un peu comme une vaisselle que vous nettoyez pour que ça vous serve, ou ça serve vos invités. On est nettoyé, on est lavé, on est mis à part, et on est zélé pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire que Dieu s'est fait un peuple qui puisse le servir d'une manière particulière, d'une manière consacrée. Autrement dit, une des raisons majeures de notre salut, c'est que nous devenions des instruments au service de Jésus pour accomplir ses œuvres. Parce que les bonnes œuvres dont on parle, ce n'est pas nos œuvres à nous, c'est les bonnes œuvres que Dieu nous donne à faire. Nous faisons donc partie du peuple de Dieu, ayant cette mission qui est de faire des choses pour le Seigneur. Nous sommes donc des instruments dont Jésus se sert pour réaliser ses projets. Voilà une des finalités pour lesquelles nous avons été sauvés. Nous avons été sauvés, notre finalité existe là, on a été sauvés par amour, pour constituer le peuple de Dieu, pour être membre de la famille de Dieu, mais aussi pour servir. Et voyez, j'aime beaucoup ce texte parce que ce texte est assez clair sur la notion du service. Il ne s'agit pas de servir comme moi je penserais que je vais chez Ivna, je décide, je dis bon allez, je ne rentre pas dans la chambre d'Ivna parce que c'est quand même ce personnel, hein. C'est d'accord avec moi, je ne vais pas aller dans sa chambre, hein. Mais je vais servir Ivna, je décide de servir Ivna dans son salon. Je vais faire le nettoyage, je nettoie tout, j'arrange bien son salon, comme ça elle est contente. Et ça s'arrête là. Et je l'ai servi. Voyez-vous? Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est que le cadre du service est défini par Dieu. Il faut qu'on comprenne ce mécanisme-là, et c'est ce qu'on va faire tout au long des séries qu'on va avoir, qu'on comprenne ce qui est le mécanisme dans la notion du service pour le Seigneur. Et ça, ça nous aidera à bien comprendre comment servir Dieu. Deuxième texte, 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Nous connaissons ce texte, en tout cas moi je le connais par cœur. Ça fait partie des textes que j'ai appris à connaître dès ma première conversion, parce que j'ai eu une série d'enseignements qu'on appelle les affermissements, et avec ces enseignements-là, j'étais obligé d'apprendre ce texte-là par cœur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis, pourquoi? Le but, c'est quoi? Pourquoi Dieu nous a acquis? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Que vous annonciez les vertus. Donc, ici le service est encore plus précis. Qui sommes-nous? Nous sommes les héros de Dieu. Vous savez c'est quoi un héros? H-E-R-A-U-T. Un héros, c'est un annonceur. Celui qui dit, oh, population, je vous annonce que ça, c'est nous. Nous sommes là pour annoncer le Seigneur Jésus-Christ. Annoncer ce que Dieu a fait pour nous. Annoncer au monde que Dieu existe. Notre service, donc, principalement, c'est l'évangélisation. Nous sommes donc des serviteurs de l'évangile. À tous les niveaux que nous sommes. Donc, en prenant appui sur ces deux textes, j'aimerais seulement souligner que servir Dieu fait partie de notre identité de chrétien. C'est partie de notre existence en tant que chrétien. J'avais évoqué un jour que le chrétien avait deux cartes sur lui. Quand on vous contrôle, on vous demande des papiers. Eh bien, le chrétien a deux cartes à présenter. Une carte d'identité et une carte de travail. Ok? Une carte qui dit qui il est et une carte qui dit ce qu'il fait. Et c'est un peu comme ça dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi que qu'est-ce qu'on s'intéresse lorsque on va dans les services publics, on s'inscrit quelque part, on remplit des formulaires. Qu'est-ce qu'on nous demande en premier lieu? Qui nous sommes? Et ce que nous faisons dans la vie. Eh bien, le chrétien, il est enfant de Dieu, c'est ça son identité. Membre de la famille de Dieu, ça c'est son identité. Et il est donc citoyen du ciel. Et l'autre carte, c'est sa carte de travail, il est serviteur de Jésus-Christ. C'est sa carte de travail. C'est ça à quoi Dieu l'a appelé, à servir. Et donc, c'est ce que nous allons essayer d'apprendre, à découvrir et à faire aussi. Mais servir l'église locale, c'est comme je disais, donc ce n'est qu'un moyen pour atteindre le royaume de Dieu. Deuxième groupe de textes, et je vais terminer avec ça. Psaume 100. Regardez. « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Deux choses à relever. Servez. C'est un ordre. C'est un impératif. Il ne s'agit pas de commencer à dire « Je vais servir quand j'en aurai envie. Je servis quand j'aurai mangé ma bonne salade. Après, quand je serai bien content, bien repu, alors je peux servir. » Non ! Servez. C'est un ordre. C'est un impératif. Deuxième chose à relever, il y a une attitude. Quand j'envoie un enfant et qu'il boude, en tant que parent, vous êtes comment ? Ça vous fait plaisir ? Non ! Non ! Mais quand on envoie un enfant qu'il obéit, oui maman, oui papa, j'y vais. Ouais, ça roule. Servez avec joie. Dans le service que nous avons fait pour Dieu, Dieu veut que ce soit avec joie. Pas avec colère, peur, intérêt, calcul, mais avec joie. Deuxième texte. Très court. Romains, chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. J'aime beaucoup ce texte. C'est Romains au chapitre 12. Vous savez que dans la partie du chapitre 12 de Romains, il commence à montrer les applications concrètes de ce qu'il avait avancé. Le livre de Romains, c'est peut-être probablement un des livres de théologie le plus avancé dans le Nouveau Testament. Vous voulez connaître la pensée du salut de Dieu, la théologie du salut, ce qu'on appelle la sotériologie. Si vous voulez apprendre ce que c'est que la théologie du salut, lisez Romains. Là, il y a des choses incroyables qui expliquent le salut. Eh bien, il termine avec le chapitre 12 avec des éléments concrets. Et là, il dit une chose. Ayez du zèle. Souvenez-vous, vous vous souvenez, Dieu s'est appelé en Tite 2:14, on a dit, Dieu a appelé son peuple, il a purifié et zélé. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Encore une fois, un impératif qui est accompagné d'autres éléments. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je vais juste dire que la thématique va fonctionner autour des principalement trois préoccupations. Première préoccupation, qui peut servir dans l'Église? Ça, c'est la première question à laquelle on va répondre. La réponse n'est pas aussi simple que ça, mais on va répondre bibliquement parlant. Deuxième thématique, c'est quels sont les services qui existent dans l'Église et comment on y accède? Et troisième thématique, ou sous-thème, si vous voulez, c'est comment contribuer à grandir, à faire grandir les autres et l'Église par son service. Ok ? Alors, nous allons nous exercer à ces choses-là, et j'espère que le Seigneur nous permettra, ensemble, de découvrir, d'avancer ensemble. Il est temps que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Souvenez, on va lire la prophétie d'Agée lors de la retraite. Vous allez comprendre que, effectivement, il est temps que les choses aillent de l'avant. Bien, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les projets de pouvoir partager autour de la notion de servir dans l'Église. Aide-nous à intégrer ces notions, à être disponibles et à agir en conséquence. Merci de nous conduire tout au long de ces apprentissages, que ça nous fasse grandir et ça nous rende utile à ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Deux dernières choses avant de terminer, les annonces et l'offrande, et puis le chant final. Ça fait trois choses, hein? Enfin bon, ça va, pas grave. Le chant ne compte pas, hein? C'est gentil le chant, hein? Marie-Luce, pardon, tu peux nous donner quelques annonces?
Les annonces, c'est gentil aussi.
C'est gentil aussi, les annonces. Non, mais ça dépend. Si tu commences à avoir des désordres ici.
Non, pas du tout.
D'aller déblayer la salle en bas.
Non, pas du tout. La réunion d'âme cette semaine, jeudi matin, 9h30, comme d'habitude. Alors, comme annoncé la semaine passée, voici les informations concernant le week-end d'église à Marcourt. Du 21 au 23 octobre prochain, avec comme thème « Retrouvons nos priorités ». Je pense que ça cadre très bien aussi dans le thème que Gaston veut développer pendant toute cette année. Et l'orateur sera Samuel Géva. Je pense qu'on ne doit plus le présenter, il y en a beaucoup qui le connaissent. Vous avez des informations ici sur les prix, où ça se passe, etc. Donc n'hésitez pas à le prendre. Une date importante, c'est que nous devons communiquer le nombre de participants pour le 11 octobre. Donc, nous aimerions avoir les inscriptions au plus tard le 9 octobre, le dimanche 9 octobre. Donc, je pense qu'on a le temps de réfléchir, mais réfléchissez pas trop non plus, hein, inscrivez-vous et puis voilà. Donc, la date butoir, ce sera le 9 octobre. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez voir Violette ou Monique ou moi-même. Alors, on en a parlé la semaine passée aussi. Dans 15 jours, le 25 septembre, nous aurons Jean-Marie Thomas au culte. Et après, il nous parlera de Madagascar. Après, un repas fraternel que nous partagerons ensemble. Aussi, bienvenue à chacun. Soyons nombreux pour cette activité. Voilà, moi j'ai fini. Merci.
Alors, pour ma part, j'aimerais signaler que nous allons reprendre les études bibliques ce mardi, si tout le monde est prêt et d'accord avec ça. Alors, invitation à tous les autres. Hein. Je ne sais pas où est-ce que vous lisez votre Bible avec les autres. La lecture de la Bible, c'est aussi quelque chose qui est communautaire. Ils persévéraient au pluriel dans l'enseignement des apôtres. L'étude biblique, c'est aussi une forme d'enseignement où nous